18h30 sur RTL.
RTL.
Vous écoutez RTL, il est 18h. RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle et bonsoir à toutes et à tous. Et oui, c'est parti pour de l'info, des témoignages, des reportages, des invités jusqu'à 19h15. C'est RTL dimanche soir et à 19h15, ce sera l'heure de refaire le sport avec Isabelle Langer. À la une ce soir, le retour redouté des automobilistes en provenance de Normandie. La 13 coupée à Vaucresson provoque des bouchons un peu partout à l'ouest de la capitale. Mais est-ce vraiment le grand embouteillage? Eh bien, dans un instant, les dernières informations venues du terrain sur ces difficultés et puis sur la réouverture de la 13, pas prévue avant demain et ce sera peut-être même encore plus tard. À la une également, grande scène dans le Nord avec l'extrême violence en récidive puisqu'un cousin, vous le savez, un cousin d'un des deux mis en examen pour l'assassinat de Philippe Kopmann mardi dernier a été à son tour passé à tabac et dénudé, abandonné dans un état sérieux. La mère de cette nouvelle victime parle sur RTL et dénonce une vengeance, une commune qui est encore sous le choc ce soir. La violence des mineurs, il en a été question avec François Bayrou au grand jury sur RTL. Le patron du Modem souhaite une justice beaucoup plus rapide pour les mineurs, vous l'entendez. 61 milliards de dollars d'aide américaine pour l'Ukraine. Oui, mais pourquoi faire? De quoi a besoin Zelensky? Comment Kiev va utiliser cette aide? Nous serons avec un spécialiste de géopolitique, Ulrich Bounat. Le foot avec la Ligue 1, la 30e journée cet après-midi. Metz est allé gagner au Havre 1-0. Lille a battu Strasbourg 1-0 également. Montpellier est allé gagner à Reims 2-1. Et depuis 17h, c'est un match au sommet. Brest-Monaco, le deuxième face au troisième. C'est la mi-temps, Philippe Audouin.
Exactement, Vincent. Et c'est Monaco qui mène 1-0 à Brest. But magnifique de Zakaria, 5 minutes avant la mi-temps. But peut-être entaché d'une faute préalable. C'est en tout cas ce que pense Brestois. C'est la mi-temps, 1-0 pour Monaco.
Merci Philippe. On vous retrouve avant 18h30. Dans une heure, ce sera Toulouse-Marseille et à 21h, PSG-Lyon à suivre évidemment dans RTL Foot. Le cyclisme avec la victoire de Pogacar dans Liège-Bastogne-Liège. Romain Bardet a fini deuxième. Les 24 heures du Mans avec le succès de Suzuki. Le quintet d'Auteuil 12, 11, 9, 5, 17. Dans 20 minutes, au cœur de la création, Xavier Demoulin sera face à l'ex-danseuse étoile Aurélie Dupont. Et puis pour le ciel, Caroline Chimo, demain, beau mais frais.
Demain matin, retour du grand ciel bleu quasi partout au réveil. C'est encore un peu nuageux à l'est de la Lorraine et de la Franche-Comté, couvert également en vallée du Rhône. En revanche, les averses seront bien calmées et les éclaircies seront de retour. On surveillera au réveil les gelées matinales qu'on retrouvera principalement entre le sud-ouest, le centre et les Hauts-de-France. On attend notamment moins 1 degré au réveil à Troyes ou à Limoges, 0 à La Rochelle, 2 seulement attendus à Lille ou à Strasbourg, 3 pour Paris ou pour Lyon, 5 à Brest ou à Marseille. Il fera 10 au maximum à Bastia. Dans l'après-midi, les belles éclaircies sont de retour partout. Ce sera toujours très ensoleillé dans le sud, excepté peut-être autour de Nice en fin de journée où des orages pourraient éclater. Il fera entre 10 et 14 degrés en général et entre 15 et 16 autour de la Méditerranée.
Merci Caroline. Donc couvrons-nous d'autant que cette vague de froid va s'installer sur le pays toute la semaine. À 18h30, le Mac du dimanche, deux invités. Andrea Palis, elle est la productrice du documentaire événement dont le premier volet est diffusé ce soir sur M6. Au cœur du collège, un an à Jean Villard, c'est passionnant, c'est un autre éclairage des collégiens de 2024 à l'heure où les affaires de violence ou de harcèlement font la une régulièrement. Et puis invité également Marc Hervé du magazine Society, il a mené l'enquête sur ses responsables RH, relations humaines, déstabilisés dans les entreprises par cette génération Z, née au tournant du millénaire et qui arrive sur le marché du travail avec des règles et des idées pour le moins déroutantes. Au menu du mag également, le Parlement de Strasbourg en question à l'heure d'une nouvelle session et à cette semaine des élections. Et puis RTL Matin en direct de Marseille demain de 7h à 9h avec Yves Calvi, Amandine Bégaud et toute l'équipe. On vous dira tout sur le programme. À 18h50 comme chaque dimanche, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avec cet animal. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous aurez la réponse avant 19h.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Et là, c'est le moment redouté par des milliers d'automobilistes de retour de vacances ou de week-end en provenance de l'ouest de la Normandie en direction de l'Île-de-France. Vous le savez, depuis jeudi soir, la 13 est coupée entre Vaucresson et le boulevard périphérique. Décision prise après la découverte d'une fissure entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud. pas de réouverture avant demain, ce sera peut-être même encore plus tard, on va voir ça. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, des bouchons. Mais est-ce vraiment la catastrophe annoncée? Eh bien écoutez, Valentin Boissier, vous allez nous le dire, vous rentrez vous-même de Paris en compagnie de milliers d'automobilistes, vous êtes du côté du Chesnay-Rocancourt, dans les Yvelines, c'est ça?
Absolument, c'est ça. Je suis dans ma voiture sur la départementale 307 très précisément. Elle fait partie, cette route, des déviations proposées par la DIRIF pour éviter donc cette fermeture de la 13. Pour l'instant, ça roule plutôt bien là où je me trouve. Sur la 86 également, j'y étais tout à l'heure. En revanche, je me suis aventuré sur la N118 tout à l'heure. Et là, j'ai dû prendre mon mal en patience. J'ai eu le temps même de manger mon petit goûter dans la voiture, dans les bouchons, parce que direction Paris, c'est assez compliqué. Il y a eu un accident à hauteur de Vélizy. En plus donc de l'affluence, résultat, il s'agit de l'axe de déviation où ce soir il y a le plus de difficultés.
Merci beaucoup Valentin Boissier. On a entendu ce matin sur RTL le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, réclamer la gratuité de la 14, du duplex de la 86. C'est pas le cas, hein, il n'a pas été entendu.
Effectivement, c'est toujours indiqué 9 euros si on veut emprunter le duplex de la 86, je l'ai vu tout à l'heure. Pourtant, ça pourrait s'avérer utile parce que ce lundi, c'est retour au travail pour de nombreux franciliens et un jour comme cela, ce sont 100 000 voitures qui devraient s'aventurer sur cette portion fermée de la 13. Ils devront passer demain matin sur la 14 ou la 86, autoroute qui reste donc jusqu'à preuve du contraire payante.
Et où en sont les travaux d'ailleurs sur la 13 ?
Alors c'est un peu flou parce que la fissure semble reboucher avec un épais pansement de bitume. Des prises de mesures sont en cours depuis hier sur la route et sous la route au niveau d'un mur de soutènement pour savoir si l'édifice est en danger. Les résultats sont attendus demain soir. C'est alors qu'une décision sera prise. La DIRIF parle d'une potentielle réouverture au mieux dans le courant de la semaine prochaine.
Réouverture au plus tôt dans le courant de la semaine prochaine. Merci beaucoup Valentin Boissier et à vous comme à tous ceux qui sont dans les bouchons en ce moment. Courage et patience. Merci d'écouter RTL. Merci de votre fidélité. On va vous accompagner et vous aider à passer ce moment. Et justement, tiens, l'actualité, c'est également une autre autoroute, mais celle-ci n'est pas encore ouverte, même pas encore construite. Elle mobilise en tout cas du monde contre elle, contre son projet. C'est l'A69 entre Toulouse et Castres. Les opposants ont donné de la voix. Ils étaient nombreux à battre le pavé aujourd'hui pour dénoncer la construction de cet axe autoroutier. C'est cela, Patrick Tégéro, vous êtes à Toulouse.
Oui, tout à fait. La manifestation s'est déroulée dans le calme, encadrée par un impressionnant dispositif policier qui n'avait pas dissuadé les manifestants de tous âges. Geoffrey, par exemple, habite dans le Tarn, quasiment sur le trajet de la future A69. Et il est venu manifester en famille avec son épouse et leurs deux petits garçons.
Alors ils ont 6 et 8 ans, et c'est pour eux aussi qu'on fait ça, c'est contre ce projet qui est emblématique de mélange de décideurs et d'intérêts économiques qui nous mènent dans le mur, c'est pour eux qu'on ne baissera pas les bras, c'est pas possible. Ce projet d'A69, il est clairement emblématique de ces projets qu'il faut absolument arrêter, et on voit qu'il est né de connivence publique-privée. Nous on a des enfants, on ne peut pas les regarder dans les yeux en disant on fait rien pour vous quoi.
Alors la manifestation s'est achevée devant le palais de justice car pour les manifestants, les travaux sont illégaux. Jean faisait partie de l'organisation, il veut interpeller le procureur de la République pour faire cesser les travaux immédiatement.
Le document qui a été produit par les préfets il y a un an et qui a permis le début des travaux, en réalité n'a pas encore été jugé. Nous avons un dossier à clôturer pour le 30 avril dans lequel nous amenons tous nos arguments qui démontrent pourquoi point par point cette autoroute est illégale. On n'a pas le droit de faire un projet nouveau lorsqu'on n'a pas étudié sérieusement et sincèrement toutes les alternatives. Et il se trouve que là, une voie ferrée existe, elle a été financée il y a 15 ans avec nos impôts et elle est complètement sous-utilisée, elle est même en train d'être délaissée.
En fait, ce que redoutent les militants, c'est que la justice leur donne raison, mais trop tard, une fois l'autoroute terminée, et ça s'est déjà vu.
Patrick Tégéro à Toulouse pour RTL. Et puis à Blois, une jeune femme de 27 ans est morte la nuit dernière après avoir été éjectée d'un manège de la fête foraine. Elle a été évacuée vers l'hôpital de la ville, mais elle n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête judiciaire est en cours. Cette fête foraine installée au parc des expositions de Blois devait s'achever ce soir, mais elle est restée fermée, évidemment, aujourd'hui. Il est 18h08, on marque une petite pause. Et dans un instant, Grande Sainte sous le choc.
RTL dimanche soir. Ce soir dès 20h dans RTL Foot, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions, la Ligue 1, c'est ce soir sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque.
Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
À Lille entre potes, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit
C'est une tuerie ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriade Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
La nuit dernière ainsi que ce dimanche ont été calmes à Grande-Synthe dans le Nord, Grande-Synthe commune au cœur de l'actualité, vous le savez, avec le guet-apens et le passage à tabac mortel mardi soir d'un homme de 22 ans, Philippe Koopman, la mise en examen pour assassinat des deux mineurs de 14 et 15 ans. Et donc, dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui ressemble à une vengeance puisqu'un cousin d'un des deux mis en examen, et portant d'ailleurs le même nom, a à son tour été passé à tabac et abandonné nu sur la voie publique avant d'être hospitalisé pour une fracture de la mâchoire, entre autres. En tout cas, Antoine Decarne, Grande-Synthe, secoué et sous tension ce dimanche encore.
Avec le ciel bleu comme rare éclairci dans cette semaine noire, les Grandes-Synthois ont cherché aujourd'hui à penser à autre chose face à la fontaine du jardin public de 5 hectares. Ludovic et sa petite fille en avaient besoin.
Ça fait du bien de prendre un peu l'air, faire sortir les enfants. L'ambiance, elle n'est pas là du tout. Hein. Tout le monde en parle, tout le monde n'est pas bien. On voit ça, on se dit, ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être le voisin, ça pourrait être le petit d'à côté. C'est pas ça, quoi.
Dans les rues de la commune de 20 000 habitants, les patrouilles de police annoncées par la préfecture ne sont pas omniprésentes. Devant chez lui, Kelvin Koopman, le frère de Philippe, enlace un couple d'amis. Il nous confie ne rien avoir à dire sur cette nouvelle agression dans la commune. Lui qui s'occupe des démarches administratives après la mort de son frère. Mais à Grande-Synthe, cette ultra-violence répétée chez les jeunes inquiète. Hassan Touga est directeur d'un des espaces jeunesse de la ville.
Je ne sais pas ce qui se passe, d'où viennent ces jeunes, qu'est-ce qui leur prend. Est-ce que c'est ils s'amusent à faire des buzz ou... Mais il y a vraiment une prévention à mettre le paquet dessus. Il ne faut plus laisser tolérer ça.
Et ils attendent surtout des réponses, d'abord sur les liens entre les différentes agressions et la mort de Philippe, mais aussi rapidement des peines de justice.
Voilà, donc merci beaucoup Antoine Decarne à Grande-Synthe pour RTL Grande-Synthe, mais aussi Viry-Châtillon ou encore Montpellier. Ces deux dernières semaines ont été marquées par des drames de l'hyperviolence mettant en cause des jeunes de 14-15 ans. Et pour François Bayrou, le président du Modem, il y a une perte de repère à laquelle la justice doit répondre plus rapidement. Écoutez, il était l'invité du grand jury RTL M6 Paris Première, Le Figaro.
Tout y contribue, les écrans, l'école, ou en tout cas les difficultés de l'école, tout contribue à priver de parole ces enfants et ces adolescents, et ça débouche en violence, et une violence qui devient, je crois en raison des jeux vidéo, et je crois en raison des écrans, de ce qu'on voit et découvre tous les jours, de ces scènes horribles filmées et répandues sur les réseaux sociaux. Et tout cela tourne dans une violence devant laquelle on est désarmé. Je suis pour qu'il y ait une réponse qui soit extrêmement rapide et presque, si possible, immédiate lorsque un fait est constaté, lorsqu'il y a un flagrant délit et lorsque des jeunes sont en question. S'il faut un an et demi entre le fait quand il a été constaté et la sanction comme elle est présentée, ça n'a plus aucun sens en termes chronologiques et en termes psychologiques pour l'adolescent en question.
Voilà, François Bayrou, c'était aujourd'hui lors du grand jury sur RTL présenté par Anaïs Bouton.
RTL dimanche soir.
L'armée israélienne a bombardé aujourd'hui la bande de Gaza, notamment la ville de Rafah au sud. Le mouvement islamiste palestinien Hamas estime que Washington a donné en fait à Israël le feu vert pour continuer à agresser des Palestiniens. Le Hamas dénonce ainsi le vote hier à la Chambre des représentants d'une nouvelle aide militaire de 13 milliards de dollars à l'État hébreu. Le gouvernement américain porte la responsabilité politique, légale et morale des crimes de guerre, dit ainsi le Hamas, avec une aide américaine qui, vous le savez, doit notamment servir à renforcer le bouclier antimissile israélien, ce dôme de fer qui a bien fonctionné le 13 avril dernier lors de l'attaque iranienne. L'autre volet de l'aide internationale votée hier à Washington concerne donc l'Ukraine, une enveloppe de 61 milliards de dollars pour venir en aide à Kiev face à la Russie. Bonsoir Ulrich Bouna.
Bonsoir.
Vous êtes analyste géopolitique, merci d'être en direct ce soir sur RTL. Alors 61 milliards, pourquoi faire ? De quoi a besoin l'Ukraine ?
Alors donc bon, déjà sur ces 61 milliards, il y en a environ une vingtaine qui vont être utilisés pour regarnir les stocks de l'armée américaine qui ont été beaucoup, on va dire, utilisés pour déjà envoyer de précédentes aides à l'Ukraine. Mais sur la quarantaine de milliards qui va rester, effectivement, ça va être essentiellement de l'artillerie dont l'Ukraine a cruellement besoin. Elle tire environ 2 à 3 millions d'obus, 255 par an, donc effectivement, et l'aide européenne ne suffit pas. Mmh. C'est un premier point. Le deuxième point, ce sera aussi bien évidemment des missiles antiaériens. On comprend bien que avec les bombardements massifs de la Russie sur les principales villes, les principales infrastructures ukrainiennes, les Ukrainiens commencent à manquer de systèmes antiaériens, notamment les Patriotes américains. Et donc c'est deux des versants importants qui seront fournis par les États-Unis, avec probablement aussi des missiles de longue distance pour permettre de frapper les bases arrières de l'armée russe.
Les Patriotes, hein, les missiles Patriot, ce sont ces missiles anti-missiles.
Tout à fait, exactement. Ce sont des missiles anti-missiles de très bonne qualité qui permettent notamment de lutter contre les missiles balistiques tirés par la Russie, qui sont ceux qui sont tirés et qui font d'énormes dégâts dans les principales villes et sur les principales centrales thermiques du pays.
Est-ce que ça veut dire que cette aide, elle va financer des armements uniquement défensifs, ou est-ce qu'elle va permettre de financer des armements offensifs également de l'Ukraine ?
Alors, je dirais que bon, si on prend par exemple les obus d'artillerie, finalement, ça sert aussi bien à l'un comme à l'autre. Il y aura probablement aussi des blindés qui peuvent servir à transporter des troupes. Néanmoins, on est quand même dans une phase de la guerre où c'est plutôt la Russie qui est à l'offensive, parce que l'Ukraine manque de moyens militaires, mais aussi de bras véritablement d'hommes. Et donc, effectivement, il est probable que cette aide serve essentiellement, dans un premier temps, à au moins à stabiliser le front, donc plutôt sur une posture défensive de l'Ukraine pour empêcher la Russie d'avancer.
Est-ce que ça veut dire que ces milliards, 61 ou 41, comme vous nous l'avez expliqué, vont couvrir tous les besoins à court terme ?
Alors non, ils vont en couvrir une partie. Grosso modo, jusqu'à présent, l'aide, c'est un petit peu 50-50 entre les Américains et le reste des Occidentaux, notamment les Européens. Là, depuis 6 mois, les Américains n'avaient quasiment plus rien fourni. Donc, cette aide va finalement permettre de combler un peu un manque que ressentent d'ailleurs les soldats sur la ligne de front, notamment en termes d'équipement. Mais par contre, effectivement, c'est pas la panacée. C'est pas, si vous voulez, c'est pas ça qui va permettre à l'Ukraine de repartir sur une contre-attaque d'entrée de jeu. C'est simplement cette aide va surtout servir finalement à combler les manques de l'armée ukrainienne.
Alors cette aide, on le rappelle, elle n'a pas été votée sans mal aux États-Unis, en raison notamment des réticences républicaines sous la pression de Donald Trump. Si Trump revient à la Maison-Blanche en octobre, cette aide, elle ne sera pas remise en cause.
Non, tout à fait. Non, effectivement, cette aide sera pas remise en cause. En revanche, finalement, ce package d'aide qui a été d'ailleurs pensé pour couvrir un petit peu toute l'année 2024, si jamais l'Ukraine aurait besoin d'aide début 2025, et c'est très probable, là pour le coup, effectivement, si Donald Trump revenait et était réélu en novembre et réintronisé en janvier, là pour le coup, il est très probable que l'aide américaine se réduirait, voire même serait complètement arrêtée, ce qui ferait peser le poids de la guerre sur l'Ukraine et sur les Européens.
Et sur les Européens qui peuvent maintenant, que cette aide américaine a été votée, j'allais dire remettre au pot à leur tour ?
Oui, c'est possible, effectivement. Alors, pour le coup, les Européens ont déjà mis 25 milliards sur la table, hein, donc en début d'année. Donc, ils ont déjà mis, et ils vont continuer à mettre aussi dans l'aide bilatérale. Mais en revanche, il est très clair que même s'il y a des usines qui commencent à se construire en Ukraine pour augmenter la capacité de l'Ukraine à se défendre par elle-même, il faudra que les Occidentaux, Européens, Américains ou autres, effectivement, continuent à donner pour soutenir l'effort de guerre ukrainien.
Merci beaucoup, Ulrich Bouna, analyste géopolitique. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL. Il est 18h18, une courte pause, et puis dans un instant, témoignage d'un héros français en Australie. À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Sandrine Porcheret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing et communication de Wizamo. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, il s'agit d'une innovation du groupe Michelin. Wizamo, c'est une solution pour propulser les navires en utilisant l'énergie du vent, grâce à un système automatisé d'ailes gonflables et rétractables.
Ça, c'est étonnant, effectivement. Et pourquoi avoir développé cette aile ?
Parce que notre ambition, c'est de contribuer à décarboner le transport maritime. Avec les performances de l'aile Wizamo, On peut réduire les émissions de CO2 de n'importe quel bateau, et plus particulièrement des gros navires de fret mondial.
Ah oui, donc c'est une vraie avancée pour l'environnement.
Oui, et c'est une innovation au service de la mobilité, ce qui a toujours été dans l'ADN de Michelin.
Merci beaucoup Sandrine.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 1,29€.
L'artichaut ?
Eh oui patron, dès demain chez Lidl, il est à
1,29€. 1,29€ l'artichaut ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous !
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%, soit 1,10€ l'artichaut. Oh, ils sont archi chauds !
Et toi t'es archi ?
Archi mal, eh oui, je sais patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Je vous le disais, c'est le témoignage d'un héros que vous allez entendre maintenant sur RTL. En tout cas, il est considéré comme tel en Australie, comme un héros, et les médias du monde entier d'ailleurs se l'arrachent. Il s'appelle Damien Guéraud, c'est lui qui a stoppé le meurtrier de l'attaque au couteau d'un centre commercial à Sydney, c'était il y a 8 jours. Une attaque qui a fait 6 morts. Ce Français, âgé de 31 ans, était à ce moment-là accompagné de son ami Silas, et il raconte au micro de Christophe Mallet ce face-à-face glaçant avec l'assaillant.
C'est vrai qu'avec l'escalator qui bougeait, je pouvais pas m'avancer, donc je pouvais pas être proche de lui, parce qu'à chaque fois je reculais, j'avais pas d'appui. Je le regardais vraiment dans les yeux pour lui faire voir qu'on était là pour le stopper, pour lui faire voir que nous aussi on était déterminés, quoi, on était comme lui à ce point-là. C'est vraiment me dire et essayer de le faire reculer, c'est plus lui faire peur si je pouvais. J'ai pas du tout été dans la logique de lui parler, d'essayer de le calmer, ou j'étais vraiment dans la logique où en fait... Il fallait le stopper vraiment, j'étais vraiment en mode énervé. Quand je voyais comment il était dans sa bulle, en fait, et comment il courait, c'était, je croyais qu'il était vraiment dans un jeu vidéo. Il ne courait pas, il ne marchait pas, il trottinait. C'était vraiment bizarre de le voir comme ça, il était en mission, quoi.
Voilà, le Français Damien Guéraud, au micro RTL de Christophe Mallet en Australie, et il a obtenu la nationalité australienne justement pour son acte de bravoure. D'ailleurs à Sydney aujourd'hui, des centaines de personnes ont rendu hommage aux 5 femmes et à l'agent de sécurité qui ont été tués à coups de couteau par cet assaillant. On revient au sport, la Ligue 1 tout d'abord, la 30e journée. Je vous rappelle la victoire de Metz au Havre 1-0, la victoire de Lille face à Strasbourg 1-0, ce qui a surpris presque, hein, pas totalement, mais presque une place en Ligue des Champions pour les nordistes. Montpellier est allé gagner à Reims 2-1. Et donc, le match au sommet, c'est en ce moment, depuis 17h. Le deuxième face au troisième, Brest-Monaco. Les Monégasques menaient au score à la mi-temps 1-0. On en est où, Philippe Audouin ?
Eh bien, Monaco a doublé la mise d'entrée en deuxième période, après seulement 3 minutes, par le japonais Minamino. Les Brestois qui se retrouvent donc menés 2-0, puisque Monaco avait ouvert le score 5 minutes avant la pause par Zakaria. Une première période dans l'ensemble équilibrée. Les Brestois qui ont finalement cédé coup sur coup et qui désormais semblent accuser le coup depuis 13 minutes que cette deuxième période a débuté. Virtuellement, Monaco passe Brest au classement à la deuxième place. Mais évidemment, il reste encore une grosse demi-heure à jouer. 2-0, rien n'est terminé. 2-0. Pour Monaco à Brest.
Merci Philippe. Et évidemment, on vous retrouvera pour la fin du match à 19h. Et avant, s'il y a un but, dans une heure, ce sera Toulouse-Marseille. Et à 21h, PSG-Lyon à suivre dans RTL Foot. Le sport, c'est aussi en rugby la balade galloise des Françaises, puisque les tricolores, dans le tournoi des 6 nations féminins, les tricolores se sont imposés à Cardiff face au Pays de Galles, 40-0. Voilà, ça c'est fait. Le cyclisme, Pogacar a remporté son deuxième Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui après un raid solitaire de plus de 35 km. Il devance le Français Romain Bardet et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et puis les 24 heures du Mans Moto, la Suzuki numéro 12 de l'équipe CERT, pilotée notamment par les Français Greg Black et Étienne Masson, s'est imposée 15e victoire pour Suzuki dans cette épreuve des 24 heures du Mans Moto. C'est un record.
Au cœur de la création sur RTL.
Vous savez, chaque semaine, Xavier Demoulin reçoit un artiste qui lui ouvre les coulisses de son imaginaire. Et alors, on peut dire que son invité aujourd'hui est une extraterrestre. Elle a passé 32 ans de sa vie à danser sous les ordres de l'Opéra Garnier. Et oui, c'est Aurélie Dupont. Danseuse étoile qui a fait ses adieux à la scène en 2015. Elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a intégré l'école des petits rats. Alors son histoire, c'est vraiment celle du destin d'une élue de cet art qui est aussi exigeant qu'impossible. Elle le raconte, son parcours, dans un livre bouleversant. N'oublie pas pourquoi tu danses, aux éditions Albin Michel. Et on peut dire que cette superstar de l'Opéra Garnier connaît très très bien son corps. À la perfection même. Alors du coup, lorsqu'elle regarde en premier quelqu'un, qu'est-ce qu'elle regarde en premier, voyage, chez les gens, c'est quoi ?
J'adore les mains parce que j'en dessine et c'est ce que je regarde en premier chez les personnes, les mains.
Ah ouais ?
Ouais, et c'est des mains qui touchent, qui vous portent, qui vous supportent, qui vous rattrapent parfois.
Elles disent quoi les mains d'une personne ?
Ah, elles disent tout.
Quoi ?
Elles disent, je pense aux mains de Bébert quand vous me dites ça, et j'en parle dans mon livre, mon fameux kiné. Bébert, il avait des mains, c'était le double des miennes.
Non mais c'est un
on regarde les ongles, on regarde si c'est soigné, rongé, pas rongé.
Et donc, ça veut dire quoi ?
Bah, les ongles rongés. Non, mais les ongles rongés, c'est facile. C'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui peut être en manque de confiance pour que vous vous rongez les ongles.
Non, non.
Au cœur de la création sur RTL.
Aurélie Dupont, vous avez mis du temps à dire que vous étiez danseuse étoile, oui. À assumer ce statut. Oui. Vous avez longtemps menti, vous racontez que vous mentiez même au chauffeur de taxi. Vous étiez mythomane sur votre... Non, je suis hôtesse de l'air. Ouais. C'est vrai.
Bien
mais pourquoi inventer. Pourquoi vous n'aviez pas assumé ça?
Je me souviens que le soir de ma nomination, donc le 31 décembre 98, j'avais 25 ans et je rêvais de ça, évidemment. Et je travaillais pour, mais quand on m'a nommée, je me suis dit, parce que je suis une perfectionniste, je suis une grosse bosseuse, exigeante et tout, et je me suis dit, oh là là, c'est trop tôt, je suis pas prête. Et donc, j'ai réalisé qu'une nomination d'étoile, c'était aussi nommer quelqu'un de talentueux qu'on avait envie de suivre sur une carrière. Donc, je me suis un peu détendue par rapport à ça, et je me suis dit, c'est maintenant que ça va devenir intéressant, entre guillemets, où on va pouvoir progresser. Et puis, ce titre-là, c'est vrai que j'en ai tellement rêvé, que j'ai eu du mal, du jour au lendemain, à dire...
À l'assumer.
Je suis danseuse étoile.
Et donc,
si ça n'avait pas de valeur. En fait, la valeur, elle est arrivée à moi, et elle a pris du temps à arriver, cette valeur.
Pour vous reconnaître, ouais. Vous accepter et trouver finalement votre place.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme rapport aujourd'hui justement avec Chopin, avec Stravinsky, avec Ravel, avec Satie, Debussy, avec Mingus?
Pour moi, la musique, c'est tout. C'était beaucoup avant de danser,
ouais.
Et ça a été essentiel lorsque je dansais. C'est-à-dire que quand je dis que c'est tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand je devais apprendre des nouveaux ballets que je n'avais jamais interprétés en tant que danseuse étoile ou pas forcément, ce que j'étudiais d'abord, c'est la musique. J'apprenais pas la choré, j'apprenais la musique. Parce que je me disais, bon, déjà, je suis une fan de musique, mais je la mettais en boucle dans mes oreilles en me disant, si tu connais parfaitement la musique, orchestrée, donc chaque petit instrument, tout ça qui arrive, ça veut dire qu'une fois que j'aurai la choré, elle va s'inscrire extrêmement facilement sur les notes que j'aurais moi apprises par cœur. Donc en fait, le chemin n'est pas le même pour tout le monde. En tous les cas, la musique, pour moi, c'est l'essentiel. La musique, pour moi, en tant que danseuse, passe avant la danse.
Vous avez donc l'oreille absolue, mais vous dites qu'avoir beaucoup de mal à écouter la musique classique hors de la scène.
Oui, ça c'est.
Vous n'en écoutez jamais chez vous?
J'en écoute un peu. Alors, il y a certains morceaux que j'écoute pas parce qu'il y a encore trop d'émotions qui sont liées à la musique. Je pense à Chopin, par exemple. Et puis il y a des musiques, par exemple, parfois je vais me faire masser et elles ont le malheur de mettre des musiques classiques pendant que je me fais masser. Et si c'est des musiques sur lesquelles j'ai dansé, je peux pas me détendre parce que les pas sont associés à chaque note. Donc dans ma tête, c'est un enfer. C'est-à-dire que je peux pas me détendre. C'est un peu comme quand on est dans une voiture et qu'on met la radio et qu'on écoute une vieille chanson qu'on a adorée et les paroles vous reviennent parce que la musique est là.
Donc pendant le massage, vous vous levez, vous commencez à danser.
Non, mais dans ma tête, je danse, j'ai mille pas, j'ai des espèces de montées de trac, j'ai des moments d'émotion qui... Donc je dis arrêter la musique.
Ouais, oui. Chopin, ça vous...
Chopin, c'est encore un peu difficile. Chopin, je l'écoute pas à la maison.
Non, parce que ça vous...
C'est encore trop lié à des émotions qui étaient super. Hein. C'est pas que je les regrette pas, ces émotions, mais c'est encore trop présent physiquement, en fait.
Aurélie Dupont avec Xavier Demoulin. Et vous retrouvez l'intégralité de cet entretien d'Au cœur de la création sur RTL.fr, sur l'appli RTL, et puis à partir de mercredi, en podcast, les essentiels, à savoir donc les coups de cœur d'Aurélie Dupont, invitée cette semaine de Xavier Demoulin. Il est 18h28, courte pause, et dans un instant, on ouvre le mag du dimanche avec des collégiens au quotidien, les zoomers en entreprise, le Parlement de Strasbourg en question, et la matinale d'RTL, demain, en direct de Marseille. À tout de suite.
RTL dimanche soir. RTL Matin.
L'œil de Philippe Cavrivière.
Alors, je rappelle aux gens ce que sont les européennes. C'est cette élection où tout le monde dit « Ah, c'était hier les européennes. Merde, j'ai oublié. » Ça, c'est le lundi.
Les chroniques de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin à 7h55 sur RTL et aussi à 8h30.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
RTL, le Mac du dimanche, avec Vincent Parisot.
Le Mac du dimanche, avec deux invités ce soir. Andrea Palis, la productrice du documentaire événement dont le premier volet est diffusé ce soir sur M6, au cœur du collège un an à Jean Villard. C'est un autre éclairage des collégiens de 2024, à l'heure où, évidemment, vous le savez, les affaires de harcèlement, voire de violence, font la une régulièrement. Invité également, Marc Hervez du magazine Society. Il a mené l'enquête sur ces responsables RH dans les entreprises qui sont plutôt déstabilisés par cette génération Z, née au tournant du millénaire, et qui arrive sur le marché du travail avec des règles et des idées pour le moins déroutantes. Au menu du MAG également, le Parlement de Strasbourg en question à l'heure d'une nouvelle session et à cette semaine des élections. Et puis RTL Matin, demain en direct de Marseille, on vous dira tout sur le programme.
Le MAG du dimanche, Vincent Parisot.
Je veux que tu sois sereine de venir me voir si ça continue.
À quoi ressemble la vie dans un collège en France ?
Il se passe tellement de choses, il n'y a pas une heure qui ressemble à une autre.
Pendant un an, nous avons suivi le quotidien d'un collège en réseau d'éducation prioritaire.
On est bien concentrés.
J'ai trop envie de rigoler en classe, j'arrive pas à être sérieux.
Ah, moi aussi.
Pour découvrir les enjeux.
L'école, on n'est pas là pour t'embêter.
Le consentement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Je fais ce métier comme si chaque élève était un de mes enfants.
Les limites.
Pourquoi quand je parle au Mao, tu veux pas comprendre ?
La discipline, je le vis comme un échec.
Et les espoirs de l'enseignement.
Prends confiance en toi. Moi, je crois en toi.
Au cœur du collège, un an à Jean Villard, dimanche à 21h10 sur M6.
Eh bien voilà, une bande-annonce valant mieux qu'un long discours. On est au cœur du sujet, au cœur de ce documentaire, dont la première partie sera donc diffusée ce soir et vous en êtes la productrice. Bonsoir Andrea Palis.
Bonsoir Vincent.
Merci beaucoup. Un an au cœur de ce collège de Chalon-sur-Saône. Collège classé REP, hein, réseau d'éducation prioritaire, c'est important de le souligner, et qui nous place donc ce documentaire en immersion dans cet établissement, comme si en fait on assistait au quotidien de nos enfants. Tout d'abord une remarque, ce documentaire arrive dans un contexte marqué par des affaires de violence extrême mettant en cause des collégiens. Alors c'est pas du tout l'image que nous renvoient les enfants et les enseignants du collège Jean Villard.
Eh bien non, parce qu'en fait, ils ne sont pas tous violents, en fait, ces enfants en France. Non, on est dans un collège où les professeurs se donnent à fond, en fait, pour éduquer, pour former, pour enseigner à ces enfants. Et puis, on a des enfants, en fait, qui sont comme tous nos enfants, qui ont leurs craintes, qui ont leurs peurs, qui ont leur vie d'ado, qui sont face à nous, ce qu'on n'avait pas à notre adolescence, Internet, les réseaux sociaux, etc., qui sont un vrai... mais une horreur pour vraiment pour les professeurs et pour ouais, et pour nous-mêmes en tant que parents. Et non, ils sont normaux quoi.
Ouais, et c'est presque rassurant quand même. Alors vous avez filmé pendant un an avec un dispositif incroyable, inédit, 55 caméras, c'est ça ?
Alors pas pendant un an, les 55 ouais. caméras. On a filmé à la rentrée des classes avec des cadreurs. Ensuite on est resté pendant plus de 4 semaines au mois de mars avec les 55 caméras. Et puis après on est reparti à la fin pour voir ce qu'ils allaient devenir.
Mais est-ce que les élèves, les profs ont fini par les oublier ces caméras ? J'imagine qu'au départ, ça modifie un petit peu les comportements, puis petit à petit, on les oublie.
Qu'est-ce qu'ils avaient peur de ça ? Oh, c'était fou, parce que vraiment, le début, ils se disaient, mais c'est impossible qu'on les oublie, mais quand vous voulez, en fait, on a des caméras sur nous, dans nos cours, dans notre vie scolaire, dans nos couloirs, mais vraiment, ils avaient vraiment peur de ça, et on n'arrêtait pas de leur dire, vous inquiétez pas, dans quelques heures, ce sera terminé, vous les aurez oubliés. Et ça a été le cas, voilà. Donc oui, la première matinée de l'installation, c'était sur les retours des vacances de février. Ils sont arrivés, il y avait les caméras, ils les ont tous regardés. Les enfants, en effet, rigolaient devant, s'amusaient, essayaient de s'échapper, etc. C'était drôle. Et en fait, vraiment, au bout de 2-3 heures, la vie a repris son cours. tout le monde a repris la vie du collège et c'était parti.
Alors, dans ce documentaire, il y a des moments vraiment passionnants, d'autres très étonnants. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce sont deux jeunes enseignants qui discutent, tous les deux. Ils sont en salle des profs.
Non, mais ils sont dans un monde qui est différent du nôtre, mais alors qu'on... Enfin, j'ai pas l'impression d'être si vieille
et
que ça.
Et un monde qui ont l'impression de maîtriser, mais qui maîtrisent pas.
Qui maîtrisent pas, ouais. Du coup, j'ai été obligée de donner mon WhatsApp à une gamine.
Parce qu'elle savait pas faire autrement que par ça.
Bah ouais. Du coup, elle m'a envoyé son DM sur WhatsApp. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je lui ai fait mon commentaire en WhatsApp.
C'est bon, ça.
Et en fait, je me suis dit, mais je vais faire ça tout le temps, je vais gagner un temps fou. Et on en a discuté. Elle me dit, non, mais madame, ça me parle plus. En fait, vos commentaires à l'écrit, je les lis pas.
C'est un autre monde où l'écrit, pour eux, ne sert plus à rien.
C'est ça.
Alors, Andrea Palis, ce qui frappe là, c'est que ces deux profs, ils ont la trentaine. Hein. Enfin, j'ai regardé.
Ouais, 30-35. Ouais.
Enfin, ils sont jeunes.
Ouais.
Et on l'entend. Ils disent, c'est un autre monde. Autrement dit, on n'est plus dans le même monde.
Non, on n'est plus dans le même monde parce que aussi ils ont été élèves et donc ils n'étaient pas non plus dans ces réseaux sociaux et tout ça. Et non, ils sont quand même profs.
On entend que par exemple une élève lui dit, vous savez, madame, vos commentaires écrits, je ne les lis pas.
Bah ouais.
Je ne les lis même pas.
Autre monde, c'est vrai.
C'est-à-dire que l'écrit aujourd'hui n'est plus un moyen de communiquer avec ses collégiens.
Eh bien non, mais par contre ils se battent pour ça. Évidemment, ils continuent à faire leurs dissertations, etc. Et après, il faut s'adapter à tout. Hein. Il va y avoir le ChatGPT qui arrive aussi. Donc évidemment, qu'ils doivent tout le temps, le monde de l'éducation aujourd'hui doit tout le temps s'adapter en permanence. C'était les réseaux sociaux. Maintenant, c'est
oui, bon, enfin, ça peut être effectivement tout ce qui est numérique. Autre élément important, le harcèlement, parce que ça, il en est beaucoup question. On y assiste d'ailleurs. Hein, on voit des scènes de harcèlement. C'est assez troublant parce qu'on voit bien comment, de quelle manière, le harcelé, en l'occurrence la harcelée, peut se retrouver elle-même mise en cause, voire limite punie au même titre que ses harceleurs. On voit bien comment ça fonctionne.
Alors non, il faut faire attention parce qu'en fait, justement, cette petite séquence, elle n'avait pas été punie. En fait, la professeure la sort de la classe pour aller en vie scolaire parce qu'elle sait qu'elle va être entourée par une vraie bienveillance, qu'ils vont avoir du temps pour elle et qu'elle va pouvoir s'expliquer et raconter en fait son histoire. Donc c'est pour ça, en fait, non, elle n'est pas punie. Mais c'est vrai que...
Elle est sortie de la classe.
Elle est sortie de la classe parce que, en fait, la professeure, en fait, au bout d'un moment, se retrouve dans une situation où elle connaît pas les tenants et les aboutissants. Il faut qu'elle calme sa classe et elle sait que, il faut que Dwigu, donc, l'élève harcelé à ce moment-là.
Cette jeune fille,
en effet, a besoin de calme et a besoin d'être écoutée. Donc, elle prend la décision de la sortir. Mais elle dit juste après, d'ailleurs, vous l'avez vu, elle dit à toute la classe, vous avez vu, c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait parce que là, à cause de vous, elle va louper un morceau de cours. Donc, elle en a conscience.
Le harcèlement, l'estime de soi, mais d'autres problématiques sont abordées. On n'a malheureusement pas le temps. Hein. La place de la religion, les réseaux sociaux, vous l'avez dit, l'échec scolaire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en un mot ?
La pression scolaire.
La pression scolaire qu'on met sur ces jeunes qui ont entre 10 et
14 ans. Ouais, en fait, la troisième, quoi. Ils ont 14 ans et ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard. C'est hyper dur. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ils le vivent très, très, très mal.
Merci beaucoup, Andrea Palis. C'est formidable. Hein, et c'est à voir. On vous le conseille. Au cœur du collège, un an à Jean Villard. Les trois premiers épisodes de cette mini-série, c'est donc ce soir sur M6 à partir de 21h10.
Et c'est incroyable. On a mis 3 ans à le faire. C'est un projet dont on est très, 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 très fiers. Eh ben regardez.
Vous pouvez, merci beaucoup.
Le Mac du dimanche, Vincent Parisot.
Sur Strasbourg à présent, à un mois et demi des élections européennes et à la veille d'une nouvelle session parlementaire strasbourgeoise, ce qui met une nouvelle fois en lumière cette particularité du Parlement européen et de cette bataille du siège. Bonsoir Yannick Collant.
Bonsoir.
On va déjà rappeler comment fonctionne le Parlement européen.
Eh bien, effectivement, les eurodéputés travaillent 2 semaines par mois à Bruxelles. C'est là où se fait le travail parlementaire. On élabore, on négocie les textes européens. Et puis, 1 semaine par mois, tout le monde déménage à Strasbourg. C'est là où sont votés les textes. Et puis, c'est là aussi où ont lieu la plupart des cérémonies officielles lorsqu'on reçoit un chef d'État ou une personnalité comme le pape.
Mais alors, tout de même, Yannick, combien ça coûte ce déménagement tous les mois ?
Alors évidemment, un déménagement chaque mois de 2500 personnes, c'est-à-dire les députés, leurs assistants, le personnel du Parlement, ça coûte très cher. Les militants anti-Strasbourg ont calculé que ça coûtait 180 millions d'euros par an et qu'on gaspillait 19 000 tonnes de CO2 avec ce système. Les défenseurs du siège strasbourgeois ont donc mené quand même leur propre étude. Le coût serait en fait d'un peu plus de 51 millions d'euros par an. Ils ont calculé, ça fait 10 centimes pour chaque citoyen européen. Et c'est un chiffrage qui a été validé par le secrétariat du Parlement européen. Les pro-Strasbourg ont également calculé combien ça coûterait de tout réunir à Bruxelles, 1,2 milliard d'euros. Ça n'empêche pas une très grande majorité d'eurodéputés de réclamer vraiment un siège unique à Bruxelles.
Bah alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de députés qui veulent rester à Bruxelles ?
Alors d'abord parce que Bruxelles est vraiment beaucoup plus facilement accessible hein, que depuis les grandes capitales européennes. L'aéroport de Strasbourg est vraiment beaucoup plus modeste. Vous devez atterrir à Paris, Francfort ou Bâle et puis prendre un train, c'est pas très pratique. Ensuite, à Bruxelles, vous avez déjà la Commission et ses milliers de fonctionnaires qui préparent aussi les textes européens. Donc pour communiquer, pour rencontrer tel ou tel spécialiste du sujet, c'est plus facile. À Bruxelles, vous avez aussi tous les lobbies qui sont installés sur place et qui viennent vous voir pour vous donner leur avis sur les textes qui les concernent.
Ça, c'est le fond. Mais je crois qu'il y a aussi une question de confort. Hein.
Exactement. Les députés n'aiment pas trop Strasbourg parce qu'ils se plaignent d'avoir des bureaux trop petits. Et c'est vrai, hein, pour les avoir visités, les assistants parlementaires n'ont vraiment pas beaucoup de place dans ces bureaux. C'est moins confortable qu'à Bruxelles. Et c'est pour ça que Strasbourg a construit et continue de construire de nouveaux bâtiments juste à côté du Parlement européen pour essayer d'offrir plus d'espace. Les députés européens se plaignent aussi de l'hébergement à Strasbourg parce que les hôteliers font grimper les prix dès qu'il y a une session parlementaire. Donc les élus européens ont la désagréable impression d'être pris pour des vaches à lait et c'est ce genre aussi de petits détails qui plombent la place de Strasbourg.
Oui, n'empêche que c'est ainsi, c'est écrit, les traités européens sont clairs.
Oui, c'est vraiment marqué en toutes lettres. Hein, dans le traité d'Amsterdam, le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les 12 sessions plénières. Alors, les anti-Strasbourg avaient tenté à un temps de diminuer le nombre de passages dans la capitale alsacienne, mais la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison à la France, hein, qui avait porté plainte. C'est illégal. Donc, si on veut modifier le siège du Parlement européen, on peut le faire, mais il faut modifier les traités. Et donc, il faut l'unanimité des 27 États membres. Et donc, il faut que la France soit d'accord.
Et d'ailleurs, les défenseurs de Strasbourg, ils ont décidé de mettre les pieds dans le plat. Ils disent « Oui, un siège unique, mais dans ce cas-là, c'est Strasbourg ».
Exactement, parce que vous savez, le bâtiment du Parlement européen à Bruxelles, c'est loin d'être un modèle. Il est surnommé le caprice des dieux, parce qu'il a la forme du fromage, mais aussi parce que ce sont les députés qui l'ont imposé parce qu'ils voulaient un grand bâtiment à Bruxelles. Et ce caprice des députés, est aujourd'hui dans un état déplorable. Il a été construit en 1993 pour 300 millions d'euros. C'est une passoire thermique qui a des fissures un peu partout et qu'il faut aujourd'hui rénover entièrement. Ça va coûter 455 millions d'euros. Au prix de cette rénovation, eh bien, vous feriez fonctionner pendant 9 ans le Parlement à Strasbourg.
Ouais, et en plus, le caprice des dieux, on en pense ce qu'on en veut. Merci beaucoup Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Courte pause dans un instant. Ces managers désemparés face à la génération qui arrive sur le marché du travail, totalement décomplexés. C'est une enquête du magazine Society et son auteur sera avec nous.
Le Mag du dimanche, Vincent Parisot.
Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Hey, trop de boulot, tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte ?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
RTL, le Mac du dimanche, avec Vincent Parisot.
Avec à présent une immersion en compagnie des managers ou des responsables RH des entreprises qui se retrouvent aujourd'hui pour le moins déstabilisés par ces jeunes de la génération Z qui arrivent sur le marché du travail avec leurs idées, avec leurs exigences. Un fossé générationnel mis en lumière dans une enquête du magazine Society titrée OK Zoomer et que vous signez Marc Hervez. Bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Alors tout d'abord, Zoomer, pourquoi on les appelle des Zoomers ?
Alors c'est en résonance avec les Boomers, donc ouais. Les gens nés pendant le Baby Boom. Là c'est comme on dit que c'est la génération Z, on les appelle les Zoomers.
Alors le point de départ, c'est une formation que suivent certains responsables RH pour mieux comprendre cette génération Z, les jeunes nés donc au tournant du millénaire. C'est une génération qu'ils ne comprennent pas.
Oui, effectivement. Alors, les organismes de formation RH qui vendent des modules à diverses entreprises ont ajouté ce module-là à leur catalogue il y a peut-être 5-6 ans. Mmh. Comment appréhender les jeunes ou la génération Z.
Ça fait un tabac.
Et en tout cas, depuis 2 ans, il y a une forte demande, enfin une forte hausse de la demande pour plusieurs facteurs. Même si effectivement, les problématiques de management transgénérationnel, c'est pas nouveau. Mais là, c'est vraiment spécifié dans l'intitulé du module Manager la génération Z qui a des codes qui déstabilisent tout le monde.
Alors évidemment, cette enquête, elle fourmille d'exemples de ces codes qui déstabilisent tout le monde et pas forcément des managers très âgés. Hein. Il y a des managers qui ont 30-40 ans et qui sont déjà complètement, j'allais dire, aux fraises par rapport...
Qui disent, les jeunes, je les comprends plus. Alors qu'ils ont 30 ans.
Alors, je pense à ces jeunes, par exemple, qui veulent devenir cuisiniers parce qu'ils ont vu Top Chef. Mais qui se rendent compte que pour être cuisinier, il faut travailler...
Le soir et le week-end.
Ouais, c'est assez insensé. C'est-à-dire que là, on voit la force et la puissance, non seulement des médias, mais aussi des réseaux sociaux et de tout ce qui va avec.
Aussi, puis un manque aussi, eux, peut-être de recul au tout début ou de connaissances sur ce que c'est qu'effectivement, dans les faits, travailler en cuisine. Mmh. Et en fait, c'est... L'idée, c'est pas de dire les jeunes veulent pas travailler, ils sont feignants ou quoi, mais ils ont des codes et une approche vis-à-vis du travail qui est totalement différente de celle de leurs aînés.
Alors, on va essayer de les comprendre, ces codes et cette approche du travail. Ils sont en défiance envers la hiérarchie?
Oui, alors c'est pas qu'ils sont en défiance, c'est plutôt que la place que vous occupez dans l'organigramme ne fait pas foi à leurs yeux. C'est pas ça qui vous rend légitime. Il faut réussir à se rendre légitime autrement, en le montrant par son travail ou par en expliquant ce qu'il faut faire. Mais c'est pas effectivement.
C'est pas parce que vous allez dire je suis, alors, comme on dit aujourd'hui, je suis ton N+1, voilà.
Exactement.
C'est pas parce que vous êtes le N+1 que vous avez une forme de légitimité
à leurs yeux. En tout cas. Oui, même si même le N+2, hein. Enfin, Ouais. Il faut vraiment leur prouver. Et par contre, là où c'est assez rigolo, c'est que nous, on pouvait la mettre en veilleuse. Eux, ils n'hésitent pas à le dire qu'ils sont pas d'accord avec vous.
Y a un élément important, c'est qu'ils veulent comprendre le sens de leur travail. Ou alors, ils veulent donner du sens à leur travail, mais au moins, en tout cas, ils ne veulent pas travailler sans comprendre.
Ils ne veulent pas qu'on leur demande une tâche qu'ils n'ont pas envie de faire si on ne leur démontre pas par A plus B pourquoi cette tâche est importante et utile. C'est ça la vérité. Alors, c'est une problématique différente que la quête de sens qu'on a pu avoir post-Covid des cadres trentenaires qui se sont dit je fais un métier, au final, à quoi bon qu'il s'arrête à rien, je vais plutôt faire un métier de bouche qui a du sens. Là, c'est une démarche différente, mais il y a du sens dans le sens, il faut comprendre.
Avec la préoccupation environnementale, vous donnez l'exemple d'un jeune ingénieur qui dit « Ok, je prends le job, mais je ne prendrai pas l'avion parce que moi, j'ai envie de voyager pour moi, pour mon plaisir, et je dois diminuer mon quota, mon empreinte carbone. »
Voilà, donc
je prends le boulot, mais ne comptez pas sur moi pour prendre l'avion. Il y a un rapport très distancié au travail, à l'entreprise, à la culture d'entreprise.
Et il y a effectivement des problématiques de fidélisation. C'est notamment pour ça que les entreprises sollicitent des organismes de formation. C'est pour apprendre à fidéliser les jeunes, parce qu'au final, ils ont quand même à y gagner à avoir des jeunes dans leurs effectifs. Donc, effectivement, il n'y a pas le même rapport à l'employeur, ou le même attachement, parce que aussi il n'y a pas la peur du chômage.
Et voilà, ça, c'est très important. C'est ce que j'allais vous dire pour conclure. C'est une génération qui n'a pas peur du chômage, contrairement...
Comme le dit une référente pédagogique que j'ai interviewée, elle dit ils ont plus peur pour la planète que pour leur emploi, en vérité. Ils peuvent faire de l'immobilier... partir après dans le tourisme, puis de la restauration, puis voilà, ils sont très fluides, mais c'est pas le chômage qui leur fait peur.
Et aujourd'hui, c'est l'entreprise qui doit s'adapter à eux, à leur manière de voir les choses, et non pas à essayer de les faire changer de vision. C'est un petit peu ça l'idée.
Effectivement, alors il y a effectivement une inversion du rapport de force, c'est que maintenant l'entretien d'embauche a changé, c'est à l'entreprise de convaincre le candidat, ce qui est d'ailleurs une prouesse dans une période de précarité et de chômage.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est le jeune qui dit je vais réfléchir et je vous rappellerai.
Voilà, c'est ça, effectivement. C'est un peu le monde à l'envers par rapport à ce qu'ont connu les plus anciens. Merci beaucoup, c'est passionnant. C'est à lire dans le nouveau numéro du magazine Society. C'est signé Marc Hervez. Merci d'être venu sur RTL.
Merci de votre invitation.
Ce dimanche soir.
Le Mac du dimanche, Vincent Parisot.
Et on file maintenant à Marseille. Bonsoir Hugo Hamelin.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Correspondant d'RTL à Marseille, qui accueillera donc demain l'équipe de la matinale d'RTL. Je crois, Hugo, que ce sera l'occasion de dresser le bilan de l'opération PlaceNet XXL à Marseille, c'est ça ?
Oui, absolument. Ça fait un mois exactement qu'Emmanuel Macron est venu cité de la Castellane pour lancer ses opérations de police contre les trafiquants de drogue. Alors on va retourner dans le quartier d'enfance de Zinedine Zidane pour voir comment les habitants, les policiers, les consommateurs de produits stupéfiants même perçoivent cette opération avec un reportage long format d'Étienne Baudu au cœur de la Casté, comme on l'appelle ici à Marseille.
Alors au menu de cette matinale spéciale d'RTL à Marseille demain, je crois qu'il y a aussi les Jeux Olympiques avec la flamme qui arrive.
Oui, d'ailleurs, elle va partir demain d'Olympie, de Grèce. On va passer un petit coup de fil, d'ailleurs, un petit coup de téléphone au capitaine du Belém, ce grand voilier français qui doit ramener la flamme olympique à Marseille le 8 mai. On vous expliquera les coulisses de la fête. Près de 150 000 spectateurs sont attendus. Et puis, on ira visiter la toute nouvelle marina olympique, vous expliquer en quoi elle peut développer l'accès à la mer des petits Marseillais au-delà des JO. Et puis, on accueillera en plateau, sur le Vieux-Port, Alexandre Mazia, chef étoilé qui a confectionné les repas que les athlètes vont déguster au village olympique. Dernier mot, on va vous expliquer aussi pourquoi vous n'allez voir aucun drapeau Paris 2024 sur le stade Vélodrome. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée.
Ah oui, ça ne durerait pas longtemps à mon avis. Toute l'équipe sera là demain matin à Marseille ?
Quasiment, la crème de l'équipe d'RTL Matin, Amandine Bégaud qui vient en voisine car elle a des attaches dans le Var, Philippe Cavrivière, le Niçois. Bon, on l'accueille quand même avec plaisir. Et puis Louis Baudin qui sera présent également. Il nous expliquera ce qu'est exactement le Mistral, ce vent qui rend fada, comme disent les Marseillais. Il y aura du mystère et du crime aussi avec Jean-Alphonse Richard qui présentera son heure du crime spéciale Cité Phocéenne dédiée au tueur en série Patrick Salamé.
Et puis Yves Calvi qui adore les crocodiles, il va pouvoir en manger à volonté alors ?
Oui, parce que notre journaliste Manon Meilleur sera en fil rouge dès le début de la petite matinale depuis le QG d'Haribo en France, une grande usine qui sent le réglisse, qui fait travailler 200 personnes dans les quartiers nord de Marseille. Elle sera au cœur de la confection des crocodiles, des dragibus et des fraises Tagada. Alors trois semaines après les chocolats de Pâques, je ne sais pas si c'est très sérieux, mais ce sera la régalade pour Yves Calvi, comme pour tous les auditeurs qui passeront nous voir.
Et comment on va se régaler demain ? Merci beaucoup Hugo. Et donc rendez-vous demain à partir de 7h en direct de Marseille. Il est 7h-9, on marque une petite pause et on refait la planète. Alain Bougouin du Bourreau du Boulot, à tout de suite.
Bonjour, c'est Christine Haas. Chaque jour au 32-10, je vous propose de retrouver votre horoscope. Vous pouvez également obtenir une consultation en direct. Ce dialogue vous permettra une analyse de votre thème astral afin de mieux comprendre ce que les astres vous réservent. Alors à très vite sur le 32-10.
50 centimes la minute, plus prix d'un appel.
Pour ce week-end en amoureux à Marseille, elle vous sort le grand jeu. Sortie en bateau, coucher du soleil en bord de mer, dîner aux chandelles dans le resto du coin, il vous dit...
Merci chérie, c'est trop.
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyrian Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriad vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriad.com. Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023. RTL.
On refait la planète sur RTL avec la Fondation Engie. Fondation Engie, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète, c'est parti, c'est chaque dimanche soir, c'est avec vous et on vous en remercie d'ailleurs. Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Chaque dimanche, vous nous proposez un son de la nature qu'on doit découvrir, deviner. Alors, vous nous donnez un indice ?
Oui, après une escale à Orly, elle a décidé de s'installer. Oh, je suis sûr que vous avez entendu ce cri.
Après une escale à Orly, elle a vu que le paysage, le climat lui convenait, elle a pris racine.
Voilà, exactement.
Bon. Et elle vole, visiblement.
Oui, je comprends. Bon.
La réponse en fin d'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, ce soir, on parle écologie et agriculture. Pourquoi ? Eh bien parce que samedi et dimanche prochain, pour la 30e année, le réseau CIVAM, c'est un réseau d'agriculteurs investis dans l'agroécologie, lance une opération qui s'appelle « De ferme en ferme ». Et donc, il s'agit d'ouvrir les portes des exploitations agricoles pour montrer ce qu'est l'agroécologie. Et donc, on peut en savoir plus avec Nicolas Verzotti, parce qu'il est maraîcher près d'Avignon, et surtout, il est administrateur de ce réseau des CIVAM.
Oui, et je l'ai rencontré, et il m'a indiqué quand même que le réseau CIVAM, c'était 130 associations différentes, 8000 adhérents, quelques 250 salariés et 60 ans d'existence. C'est donc un mode d'agriculture qui a fait ses preuves. Mais au fond, pourquoi avoir créé ce réseau ?
Jusqu'à aujourd'hui, on a eu un modèle productiviste qui était clairement encouragé par les pouvoirs publics. Sauf qu'aujourd'hui, on en mesure en fait les inconvénients et les impacts, et qui sont pour le coup sans appel. On voit bien que l'impact sur l'environnement, même au niveau social en fait, dans la profession, nous invite à dire qu'il faut évoluer. On doit renouer en fait avec les principes agronomiques, les principes de bon sens en fait qui animaient la profession pendant des siècles et des siècles.
Donc du changement, mais pour quel modèle alors ?
Oh, finalement c'est très simple, Nicolas Verzotti.
Je mise sur la complémentarité entre l'arbre et les cultures légumières. Ça veut dire en fait que je mise sur la biodiversité pour conduire mon système de culture. Et bien ça, c'est typiquement en fait les pratiques qu'on retrouve dans les CIVAM. Du côté des collègues éleveurs, par exemple, en Beauvais-en-Laye, ce sont des agriculteurs, des agricultrices qui vont mettre en place des systèmes herbagers qu'on appelle économes et autonomes, c'est-à-dire que le cheptel, il est nourri avec tout ce qui est produit sur la ferme. Et on obtient comme ça un lait de très bonne qualité.
Alors, on a compris le principe. Le problème, c'est que la qualité et la très bonne qualité, ça se paie, ça a un coût. Est-ce que l'agroécologie, ça peut être rentable ?
Bon, franchement, ça relève le plus souvent du sacerdoce. Oui. Nicolas Verzotti me dit avoir dégagé l'année dernière entre 800 et 1000 euros de revenus, alors que, franchement, il n'a pas compté son temps, mais il poursuit quand même avec enthousiasme.
Moi, j'ai la chance, en fait, de pouvoir fixer mes prix parce que j'ai une petite ferme qui ne pourrait exister sans coopérer avec d'autres fermes, notamment pour commercialiser. Ça veut dire, en fait, que je participe à un point de vente collectif et que, partant, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le consommateur. Et j'arrive, comme ça, en fait, à pouvoir construire un prix qui tienne compte de mon coût de revient. Mais c'est pas vrai pour tout le monde parce qu'en fait, bien souvent, sur des filières plus longues, on va se retrouver en difficulté parce qu'on aura beau avoir mis en place des pratiques qui sont les plus vertueuses que possible. Quand on demande au marché de valoriser tout ça, ben, là, il répond pas présent. Et c'est là, en fait, où on se retrouve en difficulté, et notamment sur le plan du revenu.
D'où la nécessité de faire connaître l'agroécologie avec cette opération de ferme en ferme. Pratiquement, ça va se passer comment ?
Oh ben, c'est tout simplement une invitation sur le terrain pour comprendre la méthode.
L'idée, en fait, c'est qu'il n'y a pas meilleur endroit pour pouvoir parler d'agriculture durable et d'alimentation. C'est d'ouvrir les portes de nos fermes pour pouvoir valoriser à la fois et montrer, donner à voir que ben, l'agroécologie, c'est la bonne solution et que tout ça existe. Ça se déroule sur tout le territoire. Cette année, il y a plus de 650 fermes qui participent. C'est un record, d'ailleurs, depuis sa création. Et ça fait une démonstration, en fait, que ben, une agriculture durable et respectueuse, ben, ça existe.
Voilà, et donc vous pouvez évidemment aller voir tout cela, j'imagine sur Internet,
oui, réseau CIVAM. Et il y en a dans toute la France.
On refait refait la planète sur RTL.
Alain, on chasse les idées reçues dans cette émission, notamment la mémoire d'éléphant. Vous savez, quand on parle des éléphants, on dit qu'ils ont une mémoire beaucoup plus importante, même exceptionnelle par rapport aux autres, notamment à vous, évidemment, cher Alain. Dites-nous la vérité.
Vrai ou faux, je peux pas vous répondre, parce que malgré un cerveau trois fois plus gros que le nôtre, le cerveau de l'éléphant reste proportionnellement plus petit que le nôtre. Ah. Cela dit, beaucoup d'autres animaux ont une mémoire comparable à celle des éléphants. Je pense à la mémoire de cheval, par exemple.
Ah bah oui.
Mais il est vrai que ces derniers peuvent mémoriser des situations sur de longues durées, tout simplement, parce qu'ils ont une longévité atteignant les 60 ans et plus. Donc, la mémoire d'éléphant n'est pas exceptionnelle, mais elle est remarquable.
Il démonte les idées reçues chaque semaine, Alain Bougrain-Dubourg. Un événement ne pas manquer, Alain.
Jeudi prochain, la journée mondiale des animaux de laboratoire. On l'a compris, il s'agit de réduire, voire d'en finir, avec l'usage des animaux dans les laboratoires, comme souhaité du reste à terme par la Commission européenne. Une occasion de rappeler le sondage Ipsos One Voice. 74% des Français sont défavorables au principe de l'expérimentation animale.
On refait la planète sur RTL.
Allez Alain, il est déjà temps de conclure l'émission. On en revient à ce son mystérieux qu'on devait deviner. Peut-être on l'écoute. Oui.
Alors lundi, c'était après une escale à Orly, elle a décidé de s'installer.
C'est quoi cette histoire d'escale à Orly?
Alors d'abord, je vous dis, c'est la perruche à collier, oui, qui est originaire d'Afrique et d'Asie.
Perruche à collier, d'accord.